Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal de Radio Kapi et voici les titres. L'Organisation mondiale de la santé redoute une propagation rapide du virus Ebola Bundibugyo qui sévit en ce moment en Ituri, en République démocratique du Congo, en raison de la forte densité de la population, mais reconnaît que la situation n'a pas encore atteint le niveau de pandémie. Le rapatriement volontaire des réfugiés congolais du Burundi poursuit sa routine comme d'habitude, avec au moins 1000 retournés. La cinquième vague est confirmée pour demain jeudi. Le trafic sur la route nationale numéro 5 entre Kamagnola et Uvira est interrompu, une interruption déjà avec des conséquences critiques. La société civile locale nous les dévoile dans un instant. L'Organisation mondiale de la santé qualifie désormais d'élever le risque d'épidémie liée à la souche Bundibugyo au niveau national et régional. L'organisation s'est prononcée aujourd'hui dans une conférence de presse tenue à Genève, mais a aussi ajouté que cette épidémie d'Ebola, qui a pour épicentre la province minière de l'Ituri, n'est pas une pandémie. L'OMS craint tout de même une propagation rapide du virus au regard de la forte densité de la population et des camps des déplacés dans cette zone. Les détails de Michel Kifinda.
L'évaluation de l'OMS vient de confirmer la gravité de la situation sur le terrain. En classant le risque comme élevé en RDC et dans la sous-région, l'agence onusienne lance un message clair. L'heure est à la mobilisation générale. Cette 17e épidémie, qui a pour épicentre la province de l'Ituri, présente un défi sanitaire majeur. Contrairement à la souche Zaïre, bien connue par des équipes médicales congolaises, la souche Bundibugyo qui sévit actuellement ne dispose d'aucun vaccin ni traitement homologué. La porosité des frontières accentue les périls, souligne Dr Anne Ancia, directeur pays de l'OMS. Deux cas importés, dont un décès, ont déjà été signalés à Kampala, dans la capitale ougandaise, a-t-il ajouté. Face à cette trajectoire, la communauté d'Afrique de l'Est a immédiatement réagi en activant son réseau régional des laboratoires et en renforçant le dépistage au point d'entrée. Pour l'OMS, si l'impact mondial reste minime, la priorité absolue doit être accordée au déploiement rapide des équipes d'intervention en Ituri et le long des frontières pour étouffer la chaîne de transmission.
À l'international, toujours, on continue de se mobiliser afin de mettre au point un vaccin susceptible de sauver des vies. Selon le coordonnateur de Africa CDC, les recherches sont déjà avancées pour développer un vaccin contre la souche Bundibugyo qui n'en dispose pas encore. Toutefois, il précise que certaines procédures doivent être respectées. Le vaccin ne devrait donc pas être disponible avant 4 à 5 mois. Le docteur Jean Cassé, directeur général de Africa CDC, au micro de Blaise Chindani.
Nous avons 3 vaccins actuellement en cours et j'ai organisé une réunion le 16. Je vais en discuter avec François Mouyembe puisqu'il va faire partie de ce groupe. Il y a le premier vaccin, comme on a dit, le vaccin Hervé Baumer. Ça, c'est ce que nous poussons le plus avec quelques spécificités sur lesquelles on est en train d'étudier. Le deuxième, c'est le vaccin Shadox des UK. Et le troisième, c'est le vaccin qu'on appelle VSV-BDBV. Ça vient de Texas. Ce sont les 3 vaccins sur lesquels nous travaillons actuellement. Contre Bundibugyo, ça fait plus de 18 ans que cette épidémie est connue. Il n'y a pas de vaccin. Mais je peux vous assurer que si cette épidémie était en Europe, était aux États-Unis, on aurait déjà eu des vaccins disponibles. C'est cela l'iniquité dont on parle. Et maintenant, quand on parle de production des vaccins, Africa CDC, comme le ministre l'a dit, l'Union africaine nous a donné le mandat de diriger cet agenda de fabrication des vaccins et des médicaments en Afrique. Vous savez, il n'y a que 5 pays qui fabriquent ce qu'on appelle en anglais API, un Active Pharmaceutical Ingredient, des ingrédients pharmaceutiques actifs. Le pays qui en produit le plus au monde, c'est la Chine, plus de 90%. Parmi les 5 pays, la RDC, Pharmakina est la seule industrie pharmaceutique en Afrique à produire les API pour la malaria.
Sur place à Ituri, plusieurs tonnes de matériel de riposte ont déjà été acheminés à Bunia par les vols de la MONUSCO en provenance de Kinshasa, Goma et Nairobi. De leur côté, les casques bleus ainsi que le personnel civil de la MONUSCO intensifient également les activités de sensibilisation. La situation captée sur place par Isaac Raymond est rendue ici par Jean-Claude Loki.
Depuis le 17 mai dernier, date de la déclaration officielle de l'épidémie par le ministre congolais de la Santé, la MONUSCO a mobilisé sa flotte aérienne afin de soutenir le gouvernement congolais ainsi que les agences des Nations Unies engagées dans la riposte. Selon la mission onusienne, environ 5 tonnes de matériel d'urgence contre Ebola sont arrivées lundi à Bunia en provenance de Nairobi au Kenya. Cette cargaison comprenait notamment des équipements de protection individuelle, des fournitures de laboratoire, des médicaments ainsi que des tentes destinées à la prise en charge des malades. 4 véhicules et 2 motos ont également été acheminés à Bunia depuis Goma, dans le Nord Kivu et Entebbe en Ouganda. Par ailleurs, 11 autres tonnes de matériel de riposte contre Ebola sont attendues ce mercredi par vol de la MONUSCO en provenance de Kinshasa et de Nairobi. Dans les différentes bases de la MONUSCO à l'intérieur de la province, notamment à Tchabi, les casques bleus ainsi que la section des affaires civiles mènent des campagnes de sensibilisation contre cette épidémie. Des dizaines de personnes, dont 19 femmes, ont été sensibilisées lundi à l'importance de l'hygiène personnelle ainsi que sur les risques liés à la consommation de viande de brousse, une pratique courante dans cette région. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Entre-temps, dans la province du Nord Kivu, le gouverneur de province invite la population au strict respect des mesures préventives afin de freiner la propagation de la maladie à virus Ebola dans la province. Cet appel intervient après la confirmation de 3 cas suivis de décès dans les zones de santé de Goma, Katwa et Beni. La population est invitée à ne pas manipuler les cadavres et les transports en commun obligés de s'adapter. Quelques-unes de ces dispositions sont rappelées ici par la conseillère du gouverneur du Nord Kivu en matière de santé, Priska Kamala Luanda, et dans ses propos recueillis par Marc Marot.
Il est strictement interdit de circuler avec un corps sans vie d'un endroit à un autre sans document signé par l'autorité sanitaire compétente. Pour les transports des personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers à bord de son engin roulant en respectant la capacité d'accueil. Particulièrement, l'attention est attirée sur les chauffeurs de voitures communément appelés Léo. Il en est de même des motards. Il n'est autorisé que les transports d'un seul passager sur chaque moto. À chaque point d'entrée ou point de contrôle et même aux espaces publics, acceptez de vous laver les mains et les prélèvements des températures par un agent de santé. Devant l'entrée de chaque bureau, boutique, magasin, école, église, mosquée, hôtel, restaurant, bistrot, un dispositif doit être placé pour faciliter les lavages des mains avant les contacts avec les personnes.
L'UNICEF, pour sa part, annonce le renforcement de ses actions humanitaires et sanitaires à la suite des flambées de la maladie à virus Ebola signalées en République démocratique du Congo et en Ouganda. Dans sa déclaration publiée lundi dernier, l'UNICEF insiste sur la vulnérabilité particulière des enfants face aux conséquences des flambées d'Ebola. L'organisation rappelle que ces crises sanitaires perturbent gravement les services essentiels tels que la santé, l'éducation, la nutrition et la protection de l'enfance. Les détails supplémentaires avec Élisée Chikota.
L'agence met également en garde contre les effets aggravants de l'insécurité persistante, des difficultés d'accès humanitaire et de la forte mobilité des populations dans les zones affectées, facteurs susceptibles d'accélérer la propagation du virus dans les régions voisines. Pour soutenir les efforts de riposte, l'UNICEF indique avoir déjà acheminé près de 50 tonnes de matériel de prévention et de contrôle des infections vers Bunia. Ces fournitures comprennent notamment des désinfectants, du savon, des équipements de protection individuelle, des comprimés de purification de l'eau ainsi que des réservoirs d'eau. L'organisation prévoit également le déploiement imminent d'une équipe multidisciplinaire d'intervention d'urgence afin d'appuyer les autorités sanitaires dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la communication sur les risques et la mobilisation communautaire. Plus de 2 000 agents de santé communautaire sont actuellement mobilisés sur le terrain. Toutefois, l'UNICEF estime qu'un renforcement urgent des ressources humaines et logistiques demeure indispensable, particulièrement dans les zones difficiles d'accès.
Le rapatriement volontaire et coordonné des réfugiés congolais vivant au Burundi se poursuit. C'est chaque jeudi de la semaine que le mouvement s'effectue à partir des camps des réfugiés au Burundi jusqu'au site de transit de Kanvivira dans la ville d'Uvira. Le cinquième convoi est attendu demain avec une moyenne hebdomadaire d'environ 1000 personnes. Les détails de Jean Kassami.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR accorde la priorité aux demandeurs dont les zones de retour offrent plus de garanties sécuritaires. C'est dans ce contexte que les réfugiés qui doivent regagner les milieux non encore stabilisés sont invités à la patience. Cas de réfugiés qui doivent retourner dans les localités de la plaine de la Ruzizi. Le vice-gouverneur du site Kivu, Jean-Jacques Elakano, indique que la sécurité est déjà garantie.
La situation dans la plaine de la Ruzizi est sous contrôle et ça incite effectivement nos compatriotes qui sont des réfugiés au Burundi, que c'est là qui exprime les souhaits de rentrer, puissent se faire enregistrer, mais en attendant, nous sommes en train de nous préparer pour faire face aux défis et nous en appelons à nos partenaires de venir vraiment en aide à nos compatriotes pour leur faciliter les retours rapides.
Certains habitants restés chez eux à Sangé, Luvungi, Katogota et Aluberizi pour ne citer que ces milliers-là, estiment que leurs compatriotes réfugiés au Burundi peuvent rentrer sans crainte, à condition d'ouvrir un couloir humanitaire pouvant leur garantir une réinsertion socio-économique. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Sur la ligne de front, entre-temps, des combats ont été signalés aujourd'hui dans le territoire de Masisi, où le M23 et la coalition Azalendo s'affrontent depuis 3 jours, précisément dans plusieurs villages des secteurs de Katoi et d'Osso-Banyungu, au sud du territoire. Selon des sources locales, les affrontements se concentrent désormais dans le groupement Nyamaboko 1er, notamment dans les localités de Kazinga et Luke. Les détails avec vous, Alain Irung.
Ces combats interviennent après ceux signalés mardi dans le secteur voisin de Katoi. Dans cette zone, la coalition Azalendo, alliée au FARDC, aurait repris ce mardi le contrôle de plusieurs positions précédemment occupées par les rebelles. Il s'agit notamment des villages Muhahirwa, Ngululu, Nkokwe, Kacheke, Mitimingi, Katoi Centre et leurs environs, renseignent des sources locales. Ce mercredi, c'est dans les villages Kazinga et Luke où des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis la matinée. Selon ces sources, le bilan des affrontements reste encore inconnu. Toutefois, l'usage d'armes lourdes par les belligérants alimente une vive panique au sein des populations civiles. La plupart des habitants ont fui leur village pour se réfugier en brousse. Des sources locales redoutent une escalade de la violence dans cette zone déjà fragilisée par plusieurs mois de conflits armés, malgré les appels au cessez-le-feu lancés dans le cadre des processus de Doha et de Washington.
Au bord de la rivière Lubilanje en Mbujimayi au Kassai oriental, des centaines de femmes s'activent chaque jour dans une activité artisanale, le concassage manuel de grosses pierres pour produire des graviers destinés à la vente. Une tâche harassante, physiquement éprouvante et exercée dans un environnement où la précarité rivalise avec les risques sanitaires, la délégation du groupe de coordination des partenaires a échangé la semaine dernière avec ces femmes sur leurs conditions de travail externe dans la fine.
Dès les premières heures du matin, les femmes habitant le quartier Mbinza dans la commune de Dibindi, parfois accompagnées de leurs enfants, descendent dans les lits de la rivière Lubilanje. Elles soulèvent des lourds blocs de pierre, les brisent à coups de marteau, puis trient les éclats pour en faire des graviers. Jeanne Kabangu affirme que son travail présente des risques. Casser les pierres à longueur de journée, ce geste répétitif laisse des séquelles visibles comme le témoigne Nana Njiba.
Des blessures aux mains. et une fatigue excessive.
Malgré leur rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction, ces femmes affrontent une précarité extrême. Leur revenu dépend du volume de gravier produit, souvent vendu à des prix dérisoires. Elles gagnent en moyenne 5 000 à 10 000 francs congolais par jour, un montant insuffisant pour couvrir les besoins essentiels d'un ménage. Une travailleuse, le visage couvert de poussière, affirme que ce travail nous détruit, mais c'est le seul qui nous reste.
Nous pour nourrir nos familles, scolariser nos enfants, nous payons les loyers, nous n'avons plus rien à faire.
Pour certains observateurs, ces femmes qui portent à bout de bras une activité essentielle pour la ville méritent d'être vues, entendues et protégées. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a posté aujourd'hui une vidéo dont les images sont violentes. Des militants de la flottille pour Gaza, agenouillés et les mains liées après leur interception en mer et leur placement en détention dans le sud d'Israël.
L'invité.
Comme promis, notre invité est Moussa Ali Moutamar, coordinateur provincial du mouvement citoyen Machozi ya Raia. Il s'exprime sur les impacts négatifs liés à l'interruption du trafic sur la route nationale numéro 5 entre Kamanyola et Uvira. Cette mesure a été annoncée par les autorités politico-militaires réunies au siège des institutions provinciales dans la ville d'Uvira. Moussa Ali Routama a été joint par Jean Kassami.
Monsieur Moussa Ali Routamou, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Comment évolue la situation dans la plaine de la Ruzizi, surtout en rapport avec l'interdiction aux véhicules quittant Bukavu de se rendre directement à Uvira et vice-versa?
La situation reste très préoccupante et surtout très confuse dans la plaine de Ruzizi. Depuis le 14 mai, la R25 connaît des fermetures répétitives au niveau des Katogota, plus précisément à l'endroit appelé 100 mètres. À un certain moment, la route a été ouverte pendant quelques heures et avant d'être de nouveau fermée. Le véhicule quittant Bukavu vers Uvira et ceux venant d'Uvira vers Bukavu ne circule plus normalement. Plusieurs passagers d'ailleurs se sont retrouvés la fois passée bloqués entre les positions des FARDC qui refusaient qu'ils avancent vers Uvira et ceux des rebelles qui les ont interdits encore de retourner à Kamanyola. Ils se sont retrouvés entre des barrières de FARDC et des rebelles de la FCM-23. On ne peut pas parler d'une reprise normale du trafic. La situation change d'ailleurs presque à chaque instant. Il y a eu des moments où c'est les passagers déjà coincés entre les deux barrières ont été autorisés à continuer vers Uvira, mais sans véritablement parler d'une reprise du trafic normal, parce que ceux qui étaient au niveau de Luvungi n'ont pas été autorisés d'avancer vers Kamanyola et Bukavu.
Il y en a qui ont des produits périssables.
Nous avons vu des camions remplis de tomates, d'oranges, de légumes et d'autres marchandises périssables d'ailleurs restées immobilisées pendant plusieurs jours sous le soleil, là à Luvungi et de l'autre côté à Katogota. Certains commerçants parlent déjà de pertes très lourdes car plusieurs produits commencent à pourrir avant même d'atteindre les marchés d'Uvira ou de Bukavu. Il y a des familles entières qui dépendent de ces commerces pour vivre. Mais il n'y a pas que des pertes économiques, monsieur. Sur place, nous avons vu des enfants, des femmes enceintes, des malades, des étudiants et des voyageurs passer des nuits dehors, dans la forêt, sans hôtel, sans restauration, parfois même sans accès à l'eau potable. Beaucoup dormaient dans les véhicules ou à même les sols. La souffrance humaine était tellement visible pour ceux qui étaient bloqués entre les deux barrières.
Quelles sont les raisons principales évoquées par les autorités de la place qui font à ce qu'ils puissent prendre des mesures qui affectent négativement l'économie des citoyens congolais?
Les autorités avancent principalement des raisons sécuritaires. Les restrictions seraient liées aux opérations militaires et aux préoccupations sécuritaires dans cette partie de la plaine de Ruzizi. et surtout après les retraits observés de l'AFCM-23 dans la plaine de la Rouzizi, des sangs jusqu'à Kamagnola.
Y a-t-il d'autres solutions alternatives qui pouvaient être envisagées et permettre la fluidité de la circulation tout en rassurant que la sécurité est bien garantie?
Nous comprenons quand même les impératifs sécuritaires dans ces contextes de guerre, mais nous estimons qu'une politique sécuritaire efficace doit aussi tenir compte des réalités non seulement sociales mais aussi économiques de la population. Quand une route aussi stratégique qu'est la RN5 est fermée pendant plusieurs jours, sans mesure d'accompagnement, ce sont justement les civils qui payent les prix forts. Nous pensons qu'il était possible d'envisager des solutions intermédiaires au lieu d'une fermeture totale comme on l'observe. Par exemple, les autorités pouvaient organiser des convois sécurisés, instaurer des aires précises de passage. Pourquoi pas aussi renforcer les contrôles militaires aux points sensibles ou encore permettre le passage humanitaire et commercial sous surveillance? Parce qu'aujourd'hui, la fermeture prolongée de cette route crée presque une crise humanitaire dans certains endroits comme Katogo, Tel Uvunga. Et d'ailleurs, il y a des réfugiés aujourd'hui qui quittent Burundi, qui sont aussi bloqués pour revenir dans leur village, dans leur localité.
Merci, monsieur Moussa Ali Rutamu.